Il est français. En mars 2022, il est à Kiev. Il combat à côté des Ukrainiens pour défendre la capitale ukrainienne. Au printemps 2022, il est à Severodonetsk et à Lysychansk, à l'est du pays, en participant à des opérations d'évacuation des civils. Il est à Bakhmout ensuite et enfin à Kherson, où il participe aux opérations militaires ukrainiennes sur la rive gauche du fleuve Dnipro. Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Jonathan Delporte, militaire français qui s'est engagé dans l'armée ukrainienne. Il raconte son parcours en Ukraine et explique son engagement et sa motivation. Bonjour Jonathan, donc tout d'abord je voudrais te remercier pour avoir accepté cet entretien pour le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Tchernoboïevka, village à côté de la ville de Kherson, libérée par l'armée ukrainienne à l'automne 2022. Je te connais comme militaire français qui s'est engagé dans l'armée ukrainienne depuis cette grande invasion russe en Ukraine. Mais ma première question à toi porterait sur ton parcours précédent comme militaire en France. Qui es-tu, Jonathan ?
Moi, je suis un simple citoyen français qui a œuvré pour l'armée française, qui a fait le collège militaire, qui a un peu avancé. Après, je ne vais pas donner tous les détails, effectivement, sur mon passé militaire, puisque ça doit rester privé. Mais j'ai défendu donc la France et d'autres pays sur des territoires, notamment africains. Et donc j'avais terminé donc cette phase-là de ma vie avant d'arriver en Ukraine. J'étais reparti dans le civil. J'avais une vie normale jusqu'à ce que il se passe l'invasion des Russes en Ukraine, chose que je n'ai pas pu laisser faire, puisque connaissant un petit peu des Ukrainiens qui ont combattu avec moi dans d'autres pays, je pouvais pas laisser faire une chose pareille. Voilà.
Oui, donc tu connaissais un nombre d'Ukrainiens avant la grande invasion, qui était militaire ailleurs.
Bien sûr, il faut savoir, c'est que les Ukrainiens étaient par exemple en Afghanistan avec nous. En 2014, il y en avait quelques-uns qui repartaient d'Afghanistan pour venir défendre le Donbass. Donc nous, en France et dans le reste du monde, on ne parlait pas encore de la guerre en Ukraine. Mais en 2014, il y avait déjà donc des Ukrainiens qui allaient défendre les territoires occupés du Donbass. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai appris, et par ces personnes-là, j'ai appris l'histoire soviétique et toute cette histoire entre la Russie et l'Ukraine.
À quel moment est-ce que cette décision de t'engager dans cette guerre de la Russie contre l'Ukraine est venue ? Donc, est-ce que peux-tu décrire le contexte et le moment de la prise de décision ?
Alors, le premier jour, quand des amis ukrainiens, moi j'étais tout simplement sur un chantier, puisque j'ai une entreprise de bâtiment en France. Hein. J'avais ma maison, mon entreprise de bâtiment, mes enfants. Et j'ai vu ça aux informations, j'ai eu mes amis ukrainiens qui m'ont appelé. Et là, ils m'ont expliqué vraiment ce qui se passait, en fait, le jour même de l'invasion. Hein, donc, ils m'ont expliqué ce qui allait se passer. Et donc, pour moi, il n'y a pas eu de réflexion à avoir. C'était tout à fait légitime et normal de devoir aller soutenir mes frères qui étaient dans ce conflit. Et donc, j'ai préparé mes affaires, le temps de régler mes documents et de pouvoir partir. Donc, l'invasion s'est faite le 24 février, si je ne me trompe pas. Je suis parti le 2 mars. Pour l'Ukraine et puis je n'ai même pas réfléchi, j'ai pris un ticket de bus, j'ai pris le premier flexibus avec mon sac et puis je suis parti pour l'Ukraine. C'était tout à fait normal pour moi d'aller défendre un pays comme je l'ai fait toute ma vie dans d'autres pays, même si les causes n'étaient pas les mêmes. Je pense que là je ne pouvais pas faire autrement. C'est le cœur qui a parlé.
Oui, quelles étaient tes premières impressions? Tu arrivais dans un pays que tu connaissais pas, dans le sens que tu n'as jamais mis les pieds en Ukraine. Comment est-ce que tu as retrouvé l'Ukraine en guerre en début de mars 2022?
Alors, ça a été vraiment je peux dire réellement un choc, parce que la guerre en Ukraine n'est pas une guerre comme on a pu voir dans tous les pays du monde ou peu importe. Hein, c'est vraiment une guerre qui est vraiment différente, qu'on peut assimiler aux guerres les anciennes guerres de 39-45, des guerres de tranchées. Enfin, c'est vraiment des guerres qui sont terribles. Et donc, je suis arrivé dans un pays qui était totalement en fait perdu. En fait, tout le monde courait dans tous les sens. Personne ne savait ce qu'il fallait faire. On savait même pas nous-mêmes en tant que soldats. On arrivait là, on allait dans un bureau, qu'on nous envoyait dans un autre bureau. On savait même pas quoi faire. Enfin, on savait pas où on devait aller ou ce qu'on devait faire. C'était un pays qui était en train de se faire envahir, qui essayait de s'organiser pour se défendre. C'était pas simple. Il a fallu avoir quand même un peu de sang-froid et de réflexion parce que c'était la panique. Réellement, c'était la terreur. Hein. C'était la terreur dans le pays. Je suis arrivé par Lviv, les alarmes sonnaient, ça bombardait parce que ça bombardait de partout à cette époque-là. Hein. C'était vraiment, ouais, c'était le chaos. On peut dire le mot, le chaos.
Oui,
Le
c'était le
chaos,
chaos,
vraiment.
oui.
C'était le chaos,
Est-ce que
ouais.
c'était difficile pour toi en tant que militaire étranger? Tu parles pas ukrainien, bah, tu te débrouilles un petit peu, mais tu parles pas vraiment ukrainien. Est-ce que c'était difficile pour toi de voilà de régler des choses administratives, pour voilà pour de communiquer, de parler, voilà comment est-ce que ce côté administratif se passait?
Alors, au-delà du côté que moi je ne parle pas l'ukrainien, puisque il y a quand même des gens qui parlent l'anglais, donc il y avait une vraie pagaille complète au niveau administratif. Faut savoir, c'est que c'est un pays qui était en guerre, donc il y avait rien qui était prévu pour nous. C'est-à-dire que nous, on vient défendre un pays qui est pas du tout prévu, parce que en tant qu'étranger, on ne peut pas rentrer dans une armée comme ça d'un pays, c'est pas possible. On peut pas promener avec des armes, on ne peut pas prendre une arme et partir au front comme ça. C'est pas un jeu vidéo et c'est pas les films de la télévision. Donc on arrive dans un pays où c'est pas vraiment organisé. Ils essayent de mettre en place quelque chose, mais entre les directives de tout en haut et les exécutions d'en bas, enfin ça a été assez compliqué au niveau administratif. On est un peu parti à droite, à gauche. Ça a été à tel point que ben en fait au lieu de rentrer dans une légion internationale qui était prévue pour, j'ai fini avec un autre groupe et on est parti combattre sans même d'avoir de contrat. C'était au début on a fait ça. C'était le principal, c'était de défendre le pays sur le chaos qu'il y avait et surtout empêcher l'envahisseur d'avancer. C'était notre but à nous, hein. Et sauver des civils parce que plus ils avançaient, plus il y avait de morts en fait. C'était vraiment le chaos et la terreur. C'était le chaos et la terreur. Donc de Lviv, on est parti directement, donc en passant par Odessa, on est parti directement à Kiev, puisque à cette époque-là, c'était la guerre aux portes de Kiev. Hein. Faut se rappeler que dans les forêts de Kiev, c'était le chaos total. Hein.
Donc ta première destination, c'était Kiev, la capitale, et tu as passé quelque temps ici en essayant de défendre la capitale.
Voilà, tout à fait. Après, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment quand même se remettre dans les clous parce que il y avait beaucoup de pertes. On a eu beaucoup de pertes et dont des Européens. Et donc ça a été un problème administratif, j'ai envie de dire. Hein. Donc qui était où, qui faisait quoi, où étaient les parce qu'un Ukrainien qui est au front, c'est une chose. Un Français ou un Anglais ou un Américain qui est sur le front et qui meurt ou qui disparaît, c'est autre chose, quoi. Ça devient quand même un problème aussi administratif, même si c'est un pays en guerre. Donc il a fallu remettre les choses au clair. Donc on a dû revenir une fois que on avait réussi à repousser donc des forêts de Kiev ces envahisseurs tant qu'on pouvait hein, parce qu'il n'y avait pas que des Français, il y avait aussi des Américains, on avait des Coréens, enfin il y avait vrament le monde entier. On était vraiment dans des groupes où c'était vraiment international. Hein, c'était d'où le nom de la Légion internationale porte très bien son nom, puisque j'ai eu des Chiliens, on était avec des Colombiens, on était avec des Américains, des Allemands, des Coréens. Des Japonais, enfin, on a vraiment eu le monde entier. Mais on était toujours pour la même cause, donc peu importe la langue, on se comprenait pour aller combattre. Hein. C'était pas le problème. Hein. Le souci n'était pas dans le dialogue. Le souci, il était plus bureaucratique que du combat. Hein. Et donc il a fallu revenir quand même en ville pour pouvoir refaire des choses correctement, refaire des contrats
Combien étiez-vous au départ dans ce groupe dont tu parles, qui n'était pas formellement, si j'ai bien compris, la Légion étrangère, mais un groupe informel des étrangers, des militaires? Combien vous étiez?
On était 17.
17.
On était on peut appeler ça, enfin, on peut pas parce que sinon ça serait illégal, mais on appelle ça une milice, en fait. On était un groupe armé qui défendait l'Ukraine au nom de l'Ukraine, sous le contrôle de l'Ukraine, en fait, tout simplement.
Oui, voilà, un peu comme la défense territoriale ukrainienne qui était composée aussi, elle, de civils. Oui.
Voilà, exactement, sauf que nous, on n'était pas encore administrativement posés, donc on a fait ce qu'on pouvait comme on pouvait. Et donc on a quand même on rendait des comptes quand même à l'État ukrainien, bien sûr, hein. On n'était pas on partait pas à l'aventure là où on voulait, hein. On dépendait quand même de commandants qui étaient de la Légion et qui nous donnaient des instructions, mais on n'avait pas encore de contrat ni tout ce qui allait avec. Mais on avait quand même un bataillon, on était nous un bataillon quand même formé, sérieux et qui faisait un vrai travail.
Oui. Quel camp de Kiev, tu évoques les forêts de Kiev, je devine que ça devrait avoir lieu quelque part à côté d'Irpin, Boutcha, c'est ça?
Exactement, voilà, vous y êtes. Donc après, je vais pas donner les points exacts puisque ce moment-là, en fait, faut savoir c'est que cette période-là, elle est autorisée pour l'Ukraine, mais elle n'est pas autorisée forcément pour la France puisque je n'avais pas de contrat. J'ai eu mon contrat par la suite, donc bien sûr j'étais totalement légal puisque ça a été rattrapé par la suite. Mais si à ce moment-là j'étais rentré en France sans ce document-là, en fait, j'étais illégalement combattant en Ukraine pour la France.
Oui. Tu as évoqué des pertes dans ce groupe de 17 personnes militaires internationaux. Est-ce que tu peux mentionner le chiffre en pourcentage
Non,
peut-être?
je vais pas donner de chiffres ni de noms parce que c'est pas mon domaine. Moi, je suis pas là pour donner des chiffres, des noms et déclarer des choses comme ça. Mais on a eu beaucoup de pertes au début. Ça a été très compliqué et donc on était 17, on en a eu 3. Donc pour notre groupe à nous, en sachant que ben il y avait pas que nous et que on a ramené aussi des gens, des personnes décédées qui n'étaient pas forcément de notre groupe à nous. On a fait enfin. C'est compliqué à expliquer, surtout pour je sais pas, les auditeurs qui vont être de l'autre côté de ce son, mais il faut y être pour le comprendre, en fait, ce qui se passe réellement. C'était vraiment, comme on pourrait dire, la boucherie, simplement. C'était une boucherie. C'était le début de la guerre, rien n'était en place. On était très mal armés, très mal organisés, on faisait ce qu'on pouvait, mais on était face quand même à un rideau de fer, hein. On peut dire réellement que c'est le cœur ukrainien qui a combattu. C'est pas les forces ukrainiennes, hein, parce que niveau armement, on était en dessous, hein. Ils sont arrivés avec des chars, on était avec des lance-roquettes et des AK-74. Vous vous rendez compte, et des grenades. On n'était pas du tout au niveau. Nous, on n'était pas prêts, hein. L'Ukraine n'était pas prête, hein, je pense, hein. Mais elle avait un cœur bien plus gros que l'envahisseur ne pouvait le penser. Ça, c'est sûr.
Oui, donc voilà, cette préparation n'était pas faite correctement, puisque effectivement, le leadership politique n'y croyait pas vraiment à cette grande invasion, comme d'ailleurs beaucoup voilà, une grande partie de la population, mais sans mentionner aussi les internationaux, plusieurs pays ne croyaient pas que cette folie, que cette grande invasion russe pouvait avoir lieu. Donc c'est vrai que c'était une très mauvaise surprise un peu pour tout le monde. Qu'est-ce que tu retiens de cette première période de quelques semaines à côté de Kiev comme une révélation sur l'Ukraine?
Alors la révélation, c'est des gars qui n'avaient pas peur. Enfin, quand je dis des gars, c'est des frères d'armes. C'est des hommes qui partaient sans jamais penser qu'ils allaient revenir. Hein. C'est un cœur énorme. Ils partaient vraiment. Enfin, c'était des vidéos. Pour moi, je vivais les vidéos que j'ai pu voir de mes grands-parents en guerre de 39-45. C'est des gars qui partaient, comme on pourrait dire vulgairement, avec leurs bites et leurs couteaux et qui partaient au combat, quoi. Ils y partaient vraiment avec le cœur et ils ont réussi quelque chose que je pense que très peu de pays auraient pu réussir. Si on comparait la même chose, s'il se passait la même chose en France, je suis pas sûr qu'on y arrive. Réellement, hein, c'est vraiment, il y a eu un courage énorme et surtout une terreur. Une terreur quand on repassait par la ville, qu'on voyait. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, c'était un peu la pagaille. Vous aviez les gares qui étaient complètement bloquées par donc la police, les services secrets, toutes ces choses-là, qui avaient vraiment peur. Il y avait les espions russes aussi qui étaient là. Et puis vous aviez tous ces civils qui essayaient de fuir, en fait, qui essayaient simplement de fuir, en fait. Vous aviez des femmes, des enfants. Enfin, c'était et les alarmes tout le temps, et les alarmes tout le temps, et les bombardements. Enfin, c'était une fourmilière, une fourmilière. C'est ça, c'est le mot, c'est une fourmilière, ça courait dans tous les sens.
Et finalement, cette bataille de Kiev, elle est gagnée par l'Ukraine, puisque les troupes russes, finalement, fin mars 2022, sont retirées de la région de Kiev, tout aussi bien que de la région de Sumy. Et Tchernigiv, c'était une première victoire, hein, n'est-ce pas, qui a redonné le moral à tout un peuple, j'imagine à toi et à tes frères.
La victoire, c'était la victoire. C'était pas une victoire, c'était la victoire. Parce que c'était la capitale qu'on défendait. S'ils prenaient la capitale, ils mettaient un vrai coup au moral. Ils prenaient vraiment quelque chose d'important, en fait. C'était la capitale du pays. Hein. La capitale, c'est le gouvernement, c'est tout. Hein. Donc non, c'était vraiment la capitale qu'ils voulaient, c'est la capitale qu'ils n'ont pas eue. Non, ça a été un vrai tournant. Et c'est là que je pense que tout le monde a compris que l'Ukraine n'était pas ce qu'on croyait, et que l'Ukraine allait se battre, et que l'Ukraine pouvait gagner. C'était chose que personne n'aurait pu imaginer avant. On parle quand même de la Russie face à l'Ukraine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. L'Ukraine qui a été désarmée quand même par les Russes, il y a toute une histoire derrière tout ça. L'Ukraine, et c'est un petit pays à côté de la force russe. Hein. Non, c'était vraiment la victoire, je pense.
Oui. Oui, oui. On parle beaucoup, nous avons découvert les atrocités de la guerre après le départ des troupes russes dans la région de Kiev. Nous avons bien sûr visité Irpin et Boutcha, nous avons recueilli des témoignages. Qu'est-ce que t'as surpris, toi, qui militaire, dans ce comportement des soldats russes? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te choquait après toute une expérience comme militaire dans d'autres pays, dans d'autres terrains de guerre?
C'était, en face, faut savoir, c'est que face à nous, en fait, on n'avait pas une armée russe. Tout comme nous, on était, enfin, il y a, nous, on est des militaires, mais tout le monde n'était pas militaire. Vous avez des fossoyeurs, vous avez des maçons, vous avez des bouchers. Bon, après, on en parlera après de ce que j'ai pu faire quand j'étais instructeur, parce que j'étais instructeur sur Dnipro. Mais j'ai formé donc des femmes et des hommes qui avaient jamais touché une arme de leur vie. Donc vous avez en face de nous la même chose. C'est-à-dire des gens qui ont jamais fait la guerre, sauf que eux veulent envahir. Et eux ont l'autorisation de vraiment faire ce qu'ils veulent. Donc on a pris des gens, on a pris le maximum de monde. Donc la Russie, il faut savoir, c'est qu'ils sont partis dans leur territoire reculé de Sibérie, de choses comme ça, promettre de l'argent aux familles si les hommes venaient en fait en soutien. Sauf qu'en fait, ils pensent arriver en deuxième ligne, ils se retrouvent en première ligne. Donc en face de nous, on s'est retrouvés avec des gamins de 17 ans, on s'est retrouvés avec des papis de 80 ans. Enfin, il y a vraiment eu de tout, hein. Vraiment de tout. Malheureusement, c'était eux ou nous, donc on n'a pas trop le choix, on réfléchit pas du tout, c'est après qu'on constate. Mais donc vous tombez sur tout, vous tombez sur des... Ils ont envoyé des prisonniers aussi, ils ont envoyé des psychopathes. Donc vous imaginez ce que ça peut faire. En face, c'est jamais joli, hein. Et puis il y a des hommes, malheureusement, sur cette planète, qui, une fois qu'on leur donne une arme, se prennent pour Dieu, se croient au-dessus de tout le monde et croient qu'ils peuvent tout faire, les plus grosses, les plus vilaines atrocités. Donc forcément, ouais, il y a eu des choses qui étaient très très moches. Et puis on a constaté, donc au-delà de parler de, je vais pas vous parler de ce que j'ai pu voir au niveau des civils, parce que ça me fait encore beaucoup de mal aujourd'hui. Hein. Il y a des choses qui resteront gravées en nous qu'on pourra jamais enlever de toute façon. Mais on a retrouvé des soldats mutilés, des soldats torturés. Ça a été et pourtant quand vous attrapez un soldat tout seul dans une maison, quel est l'intérêt de le torturer? Vous pouvez me le donner? Il n'y en a pas. Je pense que c'est une, je sais pas, c'est une rage, c'est une haine. Après, je pense qu'il y a eu la même chose de notre côté. Hein. Vous savez, quand vous retrouvez votre frère d'armes qui a été mutilé, torturé, le prochain que vous attrapez, qu'est-ce que vous voulez lui faire? Soit vous avez encore le mental et la conscience et vous arrivez encore à réfléchir, à être posé et à pas faire de bêtises, mais si vous êtes encore dans la haine et la rage qu'il vous faut quand vous êtes devant, parce que vous voyez des choses horribles, vous pouvez aussi dérailler. Hein. C'est l'atrocité de la guerre. Hein. C'était horrible.
Jonathan, comment est-ce que ton service s'est déroulé ensuite? Parce qu'après cette victoire, la victoire comme tu l'appelles, à côté de Kiev, les combats se sont intensifiés, mais plutôt du côté de l'Est. Est-ce que tu es parti à l'Est, n'est-ce pas?
Alors moi, je suis parti à l'Est, je suis parti vers Sivirodonets. Mais arrivé là-bas, en fait, j'ai croisé donc sur mon chemin Emma et Miguel, que vous avez peut-être déjà entendu parler, donc une humanitaire espagnole qui avait donc ouvert une ONG française avec deux Français. et qui voulait vraiment aider. Et puis moi, je ressortais de choses qui n'étaient pas très très jolies. Et à ce moment-là, j'étais dans la question, est-ce que je suis là pour aller tuer des adversaires, ou est-ce que je suis là pour sauver des gens, en fait? Parce que j'ai tellement vu de, en fait, j'ai vu tellement l'atrocité sur les civils que j'ai dit, il faut peut-être les sauver avant les combats. Et donc à ce moment-là, comme au niveau administratif, on voulait remettre les choses comme il faut avant de pouvoir combattre quoi que ce soit, eh ben, j'ai rejoint Emma. Et donc, bah, on est parti faire les évacuations de Severodonetsk, là où personne ne voulait aller. Hein. On allait entre les lignes, hein. On est parti de plus en plus loin. Ça a été de plus en plus compliqué. Et je pense qu'on a vu encore plus d'atrocités d'ailleurs, puisque à ce moment-là, on n'était même plus armé. C'est-à-dire qu'on était. J'avais pas d'armes. J'étais là pour sécuriser. En fait, j'avais ma propre arme à moi personnelle, mais j'avais pas d'armes militaires. Et là, bah, on a acheté un bus et on est parti de plus en plus loin. On a été évacuer des gens, donc dans Sivirodonetsk, alors que Sivirodonetsk était à moitié pris par les Russes, à moitié pris par les. A été à moitié défendu par les Ukrainiens. On était entre les deux. Les militaires nous voyaient passer. Ils voulaient pas nous laisser passer au début. On a eu des batailles administratives parce qu'ils disaient vous pouvez pas aller là-bas. On a fini par en criant un peu avoir des laissez-passer, mais les soldats militaires nous disaient vous êtes complètement fous. Vous êtes complètement fous. Et on a été de plus en plus loin. On a été les derniers à sortir de Sivirodonetsk avec le bus. Hein. Deux ponts étaient explosés. Le dernier était à moitié cassé. La moitié de la journée, il était potentiellement aux Ukrainiens. La moitié, il n'y était plus. On a passé une nuit enfermé dans la ville où on ne savait pas si on allait pouvoir ressortir. Hein. J'ai fait plusieurs vidéos où je pensais qu'on ne ressortirait pas. Et puis après, la ville a été prise. On a fait Lissitchane. C'était pareil. C'était parce qu'en fait, on avait des points GPS où on essayait d'aller voir où il y avait des civils. Parce que les familles qui avaient déjà été évacuées, les enfants, petits-enfants, s'inquiétaient pour leurs parents, grands-parents. Et donc, on allait, nous, avec de la nourriture, et puis on allait les voir. On essayait de les emmener, chose qui n'est pas facile. Essayer d'enlever quelqu'un de leur maison, c'est pas facile.
Oui, parce que les gens
Donc,
refusaient, j'imagine, souvent,
ben, ils
n'est-ce pas?
refusaient. Le discours qu'on avait, déjà, il y a une chose qui m'a choqué, c'est quand on est arrivé dans Sivirodonetsk, les gens n'étaient pas pour nous. Hein. Ils étaient pas. Il a fallu enlever les fanions ukrainiens. Ça a été très compliqué. Et c'est là, en discutant en fait avec ces civils, qui nous ont expliqué qu'en fait, parce que j'ai eu une phrase qui m'a quand même choqué, parce qu'ils étaient en train de se faire bombarder par les Russes et disaient on attend que les Russes nous libèrent. Vous vous rendez compte? Enfin, pour un soldat ukrainien, c'est quand même très dur à entendre. Et c'est là en fait que j'ai donc en discutant, donc on avait une traductrice qui a discuté avec la personne. Et donc elle m'a expliqué que bah, de toute façon, ça faisait des années qu'ils étaient sous le conflit, sous les bombardements, qu'ils n'avaient pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, et qu'en fait, les dernières télés qu'ils avaient eues, il y avait plus d'un an, ou les radios, c'était de la propagande russe, en fait. Donc eux ne savaient pas du tout comment était le pays. Ils pensaient que toute l'Ukraine était comme le Donbass, que toute l'Ukraine était comme Sivirodonetsk, où tout était rasé en fait. Et ils attendaient juste. Ils pensaient que des Ukrainiens combattaient comme ça et qu'ils attendaient que les Russes les libèrent. Sauf que bah quand ils se sont aperçus de la réalité, parce que nous, on avait quand même nos téléphones, nos ordinateurs, on a pu leur montrer vraiment ce qui se passait. Ben, ils étaient quand même un peu choqués quand même. Ils y croyaient pas du tout. Hein. Et c'est là qu'on a commencé à faire un vrai travail et à se faire connaître vraiment dans. Parce que ça va très vite dans les petits villages comme ça, tout le monde parle avec tout le monde. Et donc là, ils ont commencé à connaître cette ONG qui est Road to Relief. Qui est une des seules ONG qui allait vraiment au front. Hein. D'ailleurs, Emma, il a laissé la vie, malheureusement. Et donc, on a vraiment pu faire un vrai travail donc avec l'État ukrainien, surtout, puisqu'il nous aidait quand même sur certaines choses, et avec d'autres ONG qui nous apportaient des biens, des choses. Et on a réussi vraiment à faire un vrai travail pendant 4 à 5 mois, je suis resté avec Road to Relief quand même, jusqu'à la fin de Sivirodonetsk-Lissitchane. Et après, ben, malheureusement, j'ai.
Si Rodanis, les sciences sont tombées, si je me rappelle bien, c'était un été 2022, finalement, où les troupes russes ont fini par le.
Avant l'été. Parce que moi, je suis reparti donc au mois de juillet donc de Lissitchane. Lissitchane était déjà pris par les Russes et Sivirodonetsk. Donc c'est tombé, je dirais plutôt mai-juin pour Sivirodonetsk. D'ailleurs, il y a même eu, on a fait l'évacuation donc d'un journaliste. Je tiens à en parler un peu quand même parce que on parle un peu des journalistes justement sur la ligne de front, qui sont des personnes qui viennent justement pour montrer un peu ce qui se passe. Il a fallu évacuer un journaliste de Sivirodonetsk. Moi, j'étais pas quelqu'un qui me suis montré. Personne ne savait où j'étais ni ce que je faisais. Et ce journaliste a fait il a voulu filmer un peu quand j'évacuais les gens. Moi, j'ai pas fait attention à sa caméra, hein, je l'avais pas vu. Sa vidéo a été reprise par toutes les télés du monde. Donc, j'ai eu la chance de passer donc sur CNN, LCI, avec mon beau visage, et puis donc que tout le monde puisse se voir, donc mes enfants surtout qui ne savaient pas que j'étais au front, et avec le maire de Sivirodonetsk qui disait, vous vous rendez compte quand même, c'est des civils qui viennent avec l'association et leurs véhicules pour sauver des gens, alors qu'il y a plein de véhicules qui sont là, qui servent pas et l'État ne les donne pas. Donc on a eu quand même des scènes qui étaient assez compliquées, parce qu'après on a eu des Ukrainiens qui se sont retournés contre nous, qui n'était pas content. Il y a eu aussi la fois où Monsieur Macron a voulu aller rendre visite à Monsieur Poutine et a fait ami. On s'est retrouvé sur un checkpoint où les soldats ukrainiens, ben, ils n'étaient pas contents du tout, hein. On s'est retrouvé au sol, le nez dans la terre, hein. Ça a été braqué par les armes. Enfin, ils se demandaient si on n'était pas des espions. Ça a été je pense que les gens ne se rendent pas compte, en fait, que le peu de choses qui peuvent être dites dans les télévisions ou dans les gouvernements des autres pays peuvent avoir une répercussion très très grave sur les lignes de front.
Oui, c'est une chose. Voilà, c'est un aspect qu'on ignore. Habituellement, c'est vrai que l'opinion publique ukrainienne, je parle de civils, là, tu connais mieux pour les militaires, mais l'opinion civile, elle dépend beaucoup de mots, de phrases prononcées par un tel ou autre président. Ça, c'est vrai que ça crée cette attitude. Et donc, j'imagine que voilà, sur les checkpoints, sur Donbass, ça peut créer des vrais problèmes.
Ah ben ça crée des vrais, vrais, vrais problèmes, parce qu'une petite phrase qui est donnée donc par un président qui est peu, certes c'est le mien puisque je suis français, mais dans un, donc sur un sur à autour d'une table avec Poutine, ne me regarde pas, je suis pas dans la politique. Nous on est, faut savoir, c'est que chaque soldat qui peut être au front n'est pas du tout dans la politique. C'est-à-dire que nous, moi je connais pas la politique du président ukrainien ni du président russe. Je suis pas là pour juger une politique ou de juger un gouvernement. Je suis là pour défendre en fait des civils et des gens. Et en fait donc les Ukrainiens font très attention quand même. C'est par protection, ils se protègent. Mais il y a des réseaux qui sont entre soldats et tout ça, où ils passent les vidéos, ils se passent les vidéos, ils se passent les mots, ils se disent les choses. Et c'est vrai que bah, il y a une fois où on s'est retrouvé quand même, vraiment, on a eu vraiment peur. Hein, parce que là, ils pensaient vraiment que le gouvernement en fait français s'était retourné contre les Ukrainiens. Et ben, faut savoir aussi, c'est que ben, c'est normal, hein, ils vont pas faire de détails, ils vont pas mettre en danger leur pays à eux pour trois petits Français qui sont là. Donc c'est vrai que bon, on a eu des moments de frayeur quand même, hein. Ça a pas été facile, hein. On n'a pas dormi beaucoup pendant ces 4 mois. Je peux vous le dire que c'était bien plus compliqué. Le travail qu'on faisait avec Emma et Jean-Tristan et Henri, qui sont donc ceux de l'ONG Road to Relief, hein, a été bien plus difficile psychologiquement et physiquement que tout ce que j'ai pu faire avec les forces armées ukrainiennes. Parce que là, on n'avait ni armes, ni protection. On était vraiment, c'était vraiment notre cœur en fait et notre foi. Hein, on pouvait juste prier. On avait juste ça.
Oui, vous étiez très exposé aussi au risque de bombardement russe, et bien
Ah ben
sûr, voilà tout.
on a été sous les tirs, on s'est retrouvé entre les deux lignes aussi, hein, parce que quand je vous dis qu'on a été vraiment très très loin, on a été aussi piqué. Il y a une maladie qui s'appelle être piqué à l'adrénaline, et c'est une maladie du soldat. Ça, c'est, on connaît ça quand on est au front. C'est qu'en fait on va à un endroit et puis il nous arrive rien, donc on croit qu'on est on finit par croire qu'on est invincible. Et malheureusement, ben, Emma a été piquée par ce syndrome. Moi aussi, moi je l'ai toujours été de toute façon, mais elle a été piquée, donc elle a voulu toujours aller plus loin. Et un jour, on s'est retrouvé à rouler sur un engin explosif avec le bus. Et là, en fait, on a dû évacuer le bus. On est parti se cacher. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était entre les feux russes et ukrainiens. On était entre les deux. Et les soldats ukrainiens nous ont envoyé des vidéos qui sont plutôt loquaces, parce que les soldats ukrainiens nous voient et nous disent, mais vous êtes complètement fous, on a failli vous tuer en fait. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ils se posaient eux-mêmes la question, puisque même les forces armées, on allait dans des endroits où les forces armées communiquent par rapport à des missiles, des choses comme ça, mais ils n'ont pas trop de communication. Et nous, on s'est retrouvés dans des endroits vraiment qui étaient complètement complètement fous, hein. Mais on a tellement, en fait, on avait tellement tous les jours on revenait avec des gens. On n'est jamais revenu avec un bus vide. C'était ça le but. Et donc on revenait jusqu'à Kramatorsk, où on ramenait des gens jusqu'à Kramatorsk. Donc nous c'était notre but, hein. À cette époque-là, Bakhmout n'était pas pris, donc on revenait soit à Bakhmout soit à Kramatorsk ramener des gens. Et nous on vivait que pour ça. On vivait que pour ça, hein. C'était notre vie à nous. Chaque jour, il était comme ça. La nuit, on rentrait sur Kramatorsk et on faisait les plans pour le lendemain. On récupérait les mails des points de localisation qui a été compliqué parce que faut savoir, c'est que nous on recevait des mails avec des points de localisation, mais on s'est aussi fait piéger malheureusement par des espions russes qui nous envoyaient des mauvais points, hein. C'est pour ça que cette fois-là, on s'est retrouvé dans des mauvais endroits parce que on n'a pas toujours eu les meilleures choses, hein. Mais je pense que c'est la chose la plus belle que j'ai pu faire en Ukraine, ça. C'est le plus beau travail que j'ai pu faire. Le plus satisfaisant, en tout cas.
Et ce travail s'est terminé vers l'été 2022. Donc, tu avais continué comme militaire, n'est-ce pas? Puisqu'on se retrouvait finalement au sud de l'Ukraine.
Oui, alors là, en fait, donc il a fallu en juillet 2022 que je revienne en France suite à, bon, déjà pour escorter parce qu'il y avait eu donc malheureusement un soldat français qui avait été abattu, et donc il a fallu que je revienne en France et aussi administrativement parce que j'avais des documents. Donc il fallait que je revienne à l'ambassade d'Ukraine en France, à Paris. Et puis après, en revenant, en fait, eh ben j'ai rencontré donc bon, c'est le côté personnel, hein. Mais en arrivant à la frontière, j'ai rencontré une douanière polonaise et puis après je suis reparti donc en Ukraine et bon j'étais amoureux quand même, mais je suis reparti sur Dnipro faire de l'instruction. Donc parce que au-delà d'aller combattre ou de sauver les gens, j'ai aussi vu beaucoup de soldats et croisé beaucoup de soldats qui étaient sur la ligne de front et j'ai vu beaucoup il faut le dire, de cadavres revenir. Et j'ai dit, mais comment on peut envoyer des gens comme ça? Je les voyais tenir leurs armes, je les voyais avancer, je disais, mais ils n'ont jamais combattu, en fait. Ils ne savent même pas se protéger. Il faudrait au moins juste se protéger, quoi. Et donc, j'ai été instructeur donc sur Dnipro avec deux autres Français. Et donc, on a fait de l'instruction sur plusieurs bataillons pour leur apprendre à tirer, tenir une arme, se défendre et surtout évacuer, pouvoir réussir à s'enfuir en gardant donc notre vie et celle de nos frères, sans se mettre en danger surtout. Parce que combattre, c'est une chose, mais si vous combattez et que vous mourrez, vous n'allez pas combattre beaucoup de choses. C'est ce qu'on a essayé de leur apprendre. Et donc on a fait pendant 2 mois de l'instruction donc sur diverses civils qui partaient justement combattre par la suite.
Oui, c'est vrai que Dnipro, c'est une ville où plusieurs entraînements ont lieu. C'est une ville qui est située entre l'Est, donc j'explique ça pour nos auditeurs, entre l'Est ukrainien et Sud ukrainien. Donc c'est une ville où il y a l'hôpital militaire, sans doute le plus grand du pays. Il y a aussi, malheureusement, le cimetière militaire, un des plus grands dans le pays, où il y a voilà, justement des choses, des préparations au combat qui se passent. Et donc toi, tu t'es enrôlé dans cette activité-là.
Il faut bien préciser, c'est que à cette époque-là, j'ai fait de l'instruction à Dnipro. Les centres d'instruction se déplaçaient tous les 6 mois. Donc il n'y a plus rien là-bas. C'était vraiment, faut bien le préciser. Parce que après, on va se dire, oui, ben, c'est là-bas qu'ils instruisent, c'est là-bas qu'il y a les écoles. Non, pas du tout, en fait. Il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des Américains, des Français, des gens d'expérience qui sont dans le pays ukrainien. Les Ukrainiens ne sont pas stupides. Et les centres de formation se déplacent tous les 6 mois. C'est-à-dire que là, j'ai pu faire quelques mois à Dnipro. Et c'est pour ça que tous déplacés dans une autre ville et que je suis reparti dans l'armée ukrainienne. C'est pour ça que il y a pas il faut bien le préciser quand même, hein,
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ils changent d'endroit parce que aussi pour des raisons de sécurité, parce qu'on sait très bien que les Russes sont capables de frapper un peu partout.
tout à fait, c'est pour ça. Et puis faut savoir, c'est qu'on peut prendre les Russes pour, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à faire front, parce que encore aujourd'hui, moi je le dis, hein, ils sont pas assez costauds pour pouvoir battre les Ukrainiens, ils les auront jamais, ça c'est une certitude. Mais ils sont pas stupides non plus, ils ont quand même des moyens très forts qui sont, bah on l'a vu quand ils ont j'étais présent à Lviv, donc c'était si je me trompe pas, en juste après, au moment de Kiev, on est repassé à Lviv où ils ont bombardé le centre d'entraînement de Lviv. Ça a été très simple pour eux. Ils ont fait une triangulation et ils ont regardé tous les téléphones étrangers. Et oui, puisqu'à cette époque-là, ils n'y pensaient pas à faire changer les cartes SIM tout de suite. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont bombardé un centre d'entraînement à Lviv, juste à côté de Lviv. Ils ont pris la triangulation, ils ont pris tous les téléphones étrangers. Ah, il y en a plein là-bas, ils sont là-bas. Et boum, ça a été. Non, il faut pas prendre non plus les Russes pour des stupides, hein. Ils sont dans nos téléphones, ils sont dans nos ordinateurs, ils sont partout, hein.
Oui, c'était, si je ne me trompe pas, c'était l'histoire de Yaboriv, ce centre énorme, en fait, à côté de Lviv. C'était tout au début de l'invasion russe.
C'était tout au début, oui, c'était tout au début, c'était tout au début, ça je peux vous le confirmer. Ça a été très compliqué, ça. Et après, donc, ça a été beaucoup plus difficile. C'est pour ça que nous, à Dnipro, on était très contrôlés parce qu'on était. Alors, ils avaient besoin de notre expérience à nous pour instruire, mais il fallait aussi qu'ils se protègent. Hein. Donc, dès qu'ils avaient des nouveaux instructeurs qui arrivaient, les instructeurs instruisaient et après ils se déplaçaient automatiquement le centre. C'était automatique.
Comment est-ce que tu as terminé à Kherson? Comment est-ce que tu es arrivé à Kherson? Puisque c'est là qu'on se retrouvait.
On s'est retrouvé à Kherson. Bon, après, il y a eu Bakhmout entre deux, il y a eu des choses, hein, mais Kherson, en fait, je m'y suis retrouvé parce que dernièrement, là, quand il y a eu le décès d'Emma, que je parlais tout à l'heure à Bakhmout, j'ai eu une colère qui n'était pas possible, puisque Emma est une humanitaire, même si elle allait très loin avec son bus, elle était visée par une roquette, donc visée par un soldat qui a bien vu que c'était un bus humanitaire. Donc, elle est morte brûlée vive dans le bus, hein. Enfin, je passerai tout ce qui a pu se passer, mais donc ils étaient quatre et il y a eu deux morts. Et donc là, j'ai eu vraiment une vraie colère en moi. Je parlais justement de la dame que j'ai rencontrée là en Pologne parce que j'ai eu un enfant entre-temps en allant lui rendre visite. Donc j'étais en Pologne à ce moment-là où Emma est décédée et il m'est monté une colère pas possible et j'ai décidé de revenir au combat et de partir encore plus loin. J'ai dit j'irai jusqu'au bout et mon but à moi, et je le garderai toujours, c'est d'avancer jusqu'à la Crimée et de récupérer cette Crimée, voilà, qui appartient à l'Ukraine. Et donc étant avec des Ukrainiens donc en communication qui ont la même idée que moi, donc l'endroit où il fallait aller, c'est Kherson. Parce que Kherson, c'est un endroit, il y a vraiment. La guerre est très dure là-bas. Elle est très très dure. Mais les soldats qui sont là-bas, ils ont un courage pas possible et ils y vont. Hein. Ils y vont. La preuve, on a traversé le Dniepr. On est de l'autre côté. On les a encore repoussés. On les repousse dans les forêts. Le combat s'arrête jamais. Et c'est un combat qui est vraiment prenant, en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose à faire, même s'il y a des combats partout. Hein. À ce moment-là, il y a quelques mois, là, c'était vraiment le combat du moment. C'est Kherson. C'est un endroit qu'il faut y aller, en fait. Après, c'est stratégiquement. En étant soldat français, on a beaucoup de stratégie dans notre tête, nous. Hein. Nous, on va pas que aller tirer sur des gens ou combattre. On pense à quoi ça va servir. Parce que repousser des envahisseurs, on peut le faire tout le long de la zone de front. Mais repousser à un endroit qui n'est pas utile, en fait, ou se mettre d'un côté de l'eau et tirer sur les gens de l'autre côté de l'eau, on va laisser ça à l'artillerie. Nous, on est des combattants, on est là pour aller vraiment au charbon, parce que nous, on n'est pas obligés d'y aller. Il faut savoir, c'est que les soldats ukrainiens sont là, il y en a qui ils y vont parce que c'est leur pays, mais ils n'ont pas le choix. Nous, on est là parce qu'on a décidé d'y être. Donc c'est à nous de faire ce travail-là. S'il y a bien des choses où il faut vraiment être volontaire, c'est nous les volontaires qu'on doit y aller, quoi. Et donc je pense que Kherson, c'était la bataille qu'il fallait être à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que je suis parti sur Kherson. Et donc j'ai intégré donc la défense territoriale et les groupes d'assaut de là-bas pour pouvoir vraiment faire un vrai travail. Et ça a été un des travaux très très intéressants puisqu'on a quand même fait des choses. Enfin, faut savoir, c'est Kherson, c'est une bataille où vous partez en pleine nuit sur un bateau, vous vous retrouvez en face dans un village qui a été rasé par les combats mais aussi par le barrage qui a été lâché. Vous êtes dans le sable, hein, vous avez 1 mètre de sable par rapport à avant, vous êtes dans des maisons qui sont complètement détruites et vous êtes vraiment sur un combat de corps à corps, hein, de bataille. Hein, et vraiment donc où vous vous retrouvez en face. Sans jamais savoir si vous allez pouvoir revenir. Puisque peut-être un bateau pourra venir vous rechercher, peut-être un bateau ne pourra pas venir vous rechercher, vous partez pour 15 jours. 15 jours, vous partez, c'est pour 15 jours, hein, vraiment. Donc vous êtes 15 jours comme ça, vraiment, livré à vous-même. Livré à vous-même, donc c'est vous et vos frères d'armes, en fait. Vous vous débrouillez, vous avez vos petites bouteilles de gaz, vous avez votre réchaud, vous avez vos pâtes chinoises, et puis vous avez ce que vous pouvez, quoi, et puis vous combattez. Voilà, c'est le vrai combat.
C'est très risqué, c'est voilà, c'est très ambitieux et très fou en quelque sorte comme opération militaire parce qu'il s'agit, il faut expliquer aussi à nos auditeurs que le fleuve Dnipro il est très large, il fait au moins 1 km de large et parfois plus à cause de voilà de fait que le barrage de Kakhovka avait sauté, donc ça fait vraiment voilà le fait de franchir déjà un fleuve aussi large, c'est très audacieux étant donné qu'il y a des drones russes qui vous chassent.
Oui, il faut savoir, c'est que justement, on ne sait jamais si on va arriver de l'autre côté. Hein. Donc, on sait, c'est pour ça qu'on ne sait pas si un bateau va. On a des créneaux à peu près, on arrive quand même par rapport à tout l'artillerie ukrainienne et tout ça, à essayer de trouver des moments où quelqu'un, donc un volontaire, un bénévole, hein, nous emmène de l'autre côté. Hein. Donc, dans des bateaux très rapides. Hein. Donc ça part en zigzag, on ne fait pas une ligne droite. Hein. La traversée qu'on fait n'est pas une ligne droite, c'est-à-dire qu'on part à droite, on part à gauche. Enfin, c'est très compliqué, on ne sait jamais si on va arriver de l'autre côté. On est avec nous, tout notre matériel. Faut savoir, c'est que si vous tombez à l'eau, ben, avec un gilet et votre matériel, je suis pas sûr que vous vous en sortez. Vous pourrez nager jusqu'au bord. Hein. Donc déjà rien que ça, c'est déjà une étape. Et une fois que vous êtes de l'autre côté, ben voilà, vous êtes en sécurité de l'eau, mais ben vous êtes sur le territoire ennemi, hein, un peu. Hein. C'est des terres ukrainiennes, mais qu'on reprend peu à peu. Et donc c'est ouais, là vous pouvez pas repartir en arrière en fait. Vous êtes dos au mur. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Vous êtes dos au mur. Donc je pense que c'est encore mieux pour un soldat comme nous, enfin pour les soldats comme nous, les équipes dans lesquelles je peux être, parce que nous on est vraiment là pour combattre. On est vraiment là pour aller repousser l'envahisseur. Et on n'a pas envie d'avoir de porte de sortie. Nous, on veut que c'est lui qui parte en courant. On ne veut pas partir en courant, nous. Même s'il est là et qu'il viendra face à nous avec plus d'armes que nous, on ne veut pas partir en courant. Il y a une phrase qu'on avait, nous, là-bas, c'est de toute façon, on aura la liberté. Donc, soit on libère l'Ukraine, soit on finira au paradis, on sera libre. Mais dans tous les cas, on aura la liberté. Mais on ne partira pas en courant, ça c'est une certitude. Et c'est pour ça que l'Ukraine arrive à combattre et arrive à repousser l'envahisseur. Parce que on a un cœur qu'ils ont peut-être pas. Parce qu'eux sont obligés, en fait. Eux, ils y vont peut-être pour l'argent. Ils y vont peut-être parce qu'ils sont forcés d'y aller. Nous, on y va parce qu'on a le cœur pour y aller. C'est ça la différence.
C'est très fort ce que tu dis. Ma dernière question à toi, maintenant que tu es en vacances en France, tu avais évoqué que tu ne parles pas de politique parce que tu es soldat, tu es militaire, mais quand même, tu es maintenant en France. Comment est-ce que tu perçois les choses et comment est-ce que la France fait assez voilà, pour cette aide, pour aider l'Ukraine?
Alors, ce que je peux vous informer, c'est que j'ai très très mal vécu mon retour par la Pologne, aussi bien par la Pologne que la France. Je le vis très très mal. Déjà de une, parce que, en fait, il y a beaucoup de mensonges. C'est vraiment du mensonge. Que ici, déjà en France, ben en France, on n'en parle même plus. Il n'y a plus la guerre en Ukraine. Je tiens à le dire quand même, c'est qu'ici, on n'en parle même plus. Pendant un moment, donc j'ai essayé de reprendre toutes les informations qui sont données ici. Hein. Ils ont arrêté de parler d'Ukraine, ils ont parlé d'Israël, puisqu'il y a la guerre là-bas. Maintenant, ils ne parlent même plus de la guerre. Le passage en Pologne, donc comme je vous ai évoqué, donc j'ai été un moment avec une Polonaise, donc j'ai eu un discours qui était très dur parce qu'ils nous ont dit, donc la Pologne n'est plus vraiment en soutien à l'Ukraine. Hein. Ils disent que la guerre n'est plus dans le pays, la guerre est dans le Donbass, donc que les Ukrainiens peuvent rentrer chez eux. Enfin, quand vous entendez des choses comme ça avec les horribilités que vous venez, parce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de repartir, moi je suis reparti le 1er janvier. Avant, vous savez, c'est qu'on s'est fait, depuis Noël, on s'est fait bombarder toute l'Ukraine. On en a pris partout. On en a pris. Ils ont rasé une maternité à Dnipro, avec des bébés, des enfants, des femmes. Enfin, les atrocités, ça a été horrible. Les derniers jours avant de partir, c'était horrible. J'ai même douté à repartir. Je ne pouvais pas laisser l'Ukraine comme ça, mais. À un moment, il faut quand même réussir à se remettre un petit peu pour pouvoir repartir en forme. Et passer en Pologne et entendre des choses pareilles, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un crève-cœur. Ça déchire le cœur. Et puis, rentrer en France et voir que bah, tout le monde s'en fout, en fait. Tout le monde s'en fout royalement. Hein. C'est moche. Hein. Après, tout le monde, non. Parce qu'il reste encore des associations, des gens qui œuvrent tous les jours. Là, je suis allé dans un supermarché où j'ai croisé des Ukrainiennes qui travaillent ici. Enfin, on était en larmes. On parlait de tout, de rien, de ce qui se passe. Ils sont plus que reconnaissants. Ils savent même pas exprimer leur reconnaissance. Mais je pense que en fait, le monde dans lequel vit la France n'est pas du tout le même que le monde ukrainien et que leur façon de vivre et le cœur qu'ils peuvent avoir, en fait. En France, on est très individualiste et c'est chacun pour soi, en fait. C'est malheureux, mais c'est devenu un peu ça. Et quand on vient d'un pays comme l'Ukraine, Je pense qu'on a beaucoup de mal à revivre dans la France, en fait. On n'arrive pas à s'y faire. C'est très difficile. Ça fait 4 à 7 jours peut-être que je suis là, je ne sais même plus. Mais c'est très difficile pour moi. C'est même pas de la vie, c'est de la survie, en fait. Je pensais venir me ressourcer. Je pense que je vais repartir beaucoup plus mal que quand j'étais en Ukraine. Réellement.
Merci beaucoup, Jonathan. C'est très émouvant ton discours, c'est très émouvant ton histoire. Je souhaite que tu puisses rester en sécurité pour renouveler des forces et pour rentrer, pour revenir en Ukraine. Et voilà, je te
Oui,
remercie.
mon retour, il est sûr, il est début février. Dans tous les cas, je ne pourrai pas. Enfin, j'essaierai de tenir jusqu'à février avant de revenir. Mais je pense qu'en fait, déjà de une, il faut bien spécifier. C'est que nous, on dit souvent, vous êtes des héros. Non, nous, on n'est pas des héros. Nous, on a décidé d'y aller. Les héros, c'est tous ces civils qui aident, en fait, qui sont là-bas, qui nous font à manger, qui restent sur les zones de front, qui habitent là. Ça, c'est des héros. Ça, c'est des personnes qui ont vraiment un cœur et un courage. Eux, ils ont du courage. Nous, on y vient parce qu'on a envie de venir. C'est la différence, en fait. Il faut bien l'entendre, ça, quand même. Les Ukrainiens n'ont rien demandé, et c'est eux qui se font abattre et qui se font terroriser. Nous, on est Français. Si on le voulait, on pourrait très bien rester dans notre maison, là, ici, et profiter de cette vie qui n'a aucune valeur réellement, puisque c'est que matérialiste. Voilà.
Merci beaucoup, Jonathan, pour ce que tu fais pour aider l'Ukraine, pour ton engagement qui est hors du commun, qui voilà que tu restes à côté du peuple ukrainien qui continue cette guerre malgré toutes les pertes qui sont là et malgré le danger qui est toujours permanent. Merci beaucoup.
Ben merci à vous, et puis il faut savoir, c'est que même si mes papiers sont français, mon cœur est ukrainien.
C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Jonathan Delporte, militaire français qui s'est engagé dans l'armée ukrainienne dès le début de la grande invasion russe en 2022. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.